Vous êtes sûr que Proust était homosexuel, Thérèse ?
Dites-moi, mon petit vieux, pour faire de la littérature, attendez la retraite.
C'est important, la lecture. Je te vois jamais lire, toi, Polo.
Apprenez-moi à monter comme un homme.
Et à chiquer du tabac comme un homme.
À cracher comme un homme.
Quoi ? On vous l'a pas appris à la fin de vos études ?
Bonjour, bonsoir et bienvenue sur J'irai cracher sur vos ondes, l'émission de Syllabes qui s'intéresse aux faits et aux objets de littérature. De genre, un petit mot pour vous souhaiter une nouvelle année pas trop dégueu. J'ai pas la prétention d'aller jusqu'à bonne parce que, bon, personnellement, j'ai envie de gifler la moindre phrase « 2021 peut pas être pire que 2020 » et qu'on sort. Mais pour autant, ça ne coûte rien d'espérer qu'on survive du mieux qu'on pourra. Sur ces mots très réjouissants, laissez-moi vous introduire le thème de notre émission de ce soir, à savoir le scandale. On aurait pu parler de femmes et d'hommes de plumes aux mœurs scandaleuses, dont la société et les mœurs de l'époque ont fait s'enflammer les journaux et les radios. Mais on a préféré parler de deux livres très différents de par leurs propos, leur genre et leur contexte de production. Tous deux ont suscité assez de scandales pour se voir censurés, ou tout du moins menacés de l'être. Ce soir, nous parlerons des poèmes tronqués du célèbre recueil que vous avez sûrement croisé au moins une fois durant votre cursus scolaire. Je vous demande des alexandrins, des sonnets en pagaille, de la crasse, de beau, du sale, du spleen, je vous demande des fleurs, je vous demande du mal. Je vous annonce Les fleurs du mal de Charles Baudelaire, chroniqué par Sandrine. Quant à moi, je vais revenir sur une polémique un peu plus récente, même si cela remonte à quelques mois déjà. Il s'agit d'un essai sur la misandrie, plutôt féministe, pas très long, la couverture violette, le titre jaune, vous voyez, vous l'avez ? Il s'agit de Moi les hommes, je les déteste, de Pauline Armange, initialement édité chez Monstrographe, mais désormais publié par les éditions Du Seuil, car victime de son succès. En fin d'émission, nous nous retrouverons avec Sandrine, Marion, Clara et moi-même pour discuter un petit peu des différences de traitement qu'ont suscité ces deux œuvres, mais également leurs auteuristes, car leurs genres ne sont pas indifférents dans cette question. Et voilà, le programme des réjouissances étant annoncé, il ne reste plus qu'à attaquer. Mais avant de retrouver Baudelaire et ses poèmes licencieux, je vous propose un peu de musique. Écoutons donc Scandale mélancolique par Hubert Félix Thiéfen.
Scandale mélancolique, sentiment discordant, le parme des colchiques rend le ciel aveuglant, la beauté de l'ennui. Dans la nuit qui bourdonne, à la galeuse ferrée des crépuscules d'automne. Scandale mélancolique, les morts parlent en dormant et leurs cris oniriques traversent nos écrans. Vieil écho sibyllin qui bug entre deux mêles avec des mots fusains sous le flou des pastels. De la folie des ombres à l'alchimie des heures, on se perd dans le nombre infini des rumeurs. C'est juste une pénombre au fond de la douleur. C'est juste un coin trop sombre au bout d'un autre ailleurs. Au bout d'un autre ailleurs. Mélancolique, ivre égorgé de sang, les démones antiques jouent avec nos enfants. De vénéneux parfums en chimérique errance, l'éternel rêve humain a le charme un peu rance. De la folie des ombres à l'alchimie des heures, on se perd dans le nombre infini des rumeurs. C'est juste une pénombre au fond de la douleur. C'est juste un coin trop sombre au bout d'un autre ailleurs. Au bout d'un autre ailleurs. Scandale mélancolique à l'ouest du néant, dans leur marbre gothique besogné par le temps. Les reines immortelles ont le silence austère des mers qui nous rappellent sous leur lingerie de pierre. De la folie des ombres à la chimie des heures, on se perd dans le folie des ombres, à la chimie des heures, on se perd dans le nombre, infini des rumeurs, c'est juste une pénombre, au fond de la douleur, c'est juste un coin trop sombre, au bout d'un autre ailleurs, au bout d'un autre ailleurs.
Scandale mélancolique d'Hubert Félix Thiéphaine. Vous écoutez, j'irai cracher sur vos ondes.
Le sujet de notre émission ce soir est le scandale dans les livres. Et je me suis dit que j'allais vous présenter cet ouvrage, Les fleurs du mal de Charles Baudelaire, parce qu'il m'est cher, précieux. Je l'apprécie beaucoup pour la qualité de ses poèmes, l'énergie que j'y trouve encore plusieurs années après sa première lecture, la beauté des vers et l'intelligence des textes, la singularité des thèmes abordés. C'est une œuvre importante de la poésie moderne. C'est un très grand classique de la littérature française où les émotions sont violentes, brusquées, perturbées et multiples, et où l'auteur nous montre ce qu'il y a de plus trivial, de plus sombre et de plus beau aussi. Bref, l'être humain dans toute sa réalité et sa diversité. Sur ma table de chevet, il y a naturellement plusieurs livres. Les deux qui me sont essentiels, tiens, un mot très important en ce moment. Et j'ose dire, oui, que la lecture, que les livres, que l'art sont essentiels. Celui que l'on trouve dans les librairies, les bibliothèques, les musées, les galeries, les théâtres, les cinés, les opéras, oui. C'est essentiel. Bon, alors deux de mes livres de chevet, ce sont le Combridge, Histoire de l'art et le Laguerre des Michards du 19e. Et je remercie encore ma professeure de français de seconde de nous avoir initiés à l'utilisation de ces manuels scolaires. Alors, je suis allée dans ce livre faire un petit peu de recherche doc et, comme les documentalistes nous l'apprennent au CDI, et à la table des matières, j'ai trouvé Charles Baudelaire. Et je pourrais de mémoire citer le poème L'Albatros de 1859. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent, indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches, que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traîner à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule, lui naguère si beau qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l'archer, exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Alors ce poème, en fait, l'Albatros, c'est la métaphore du poète rejeté et incompris des hommes. Et pour la métrique, il est composé de 4 quatrains et de 16 alexandrins. Alors, qui était Charles Baudelaire? En fait, avant de commencer avec une version un petit peu scolaire, j'ai simplement envie que nous écoutions ensemble le poème parmi ceux des 6 qui ont été retirés des fleurs du mal. Écoutons-le l'été.
Viens sur mon cœur, âme cruelle et sourde, tigre adoré, monstre aux airs indolents, je veux longtemps plonger mes doigts tremblants dans l'épaisseur de ta crinière lourde. Dans tes jupons remplis de ton parfum, ensevelir ma tête endolorie et respirer comme une fleur flétrie le doux relent de mon amour défunt. Je veux dormir, dormir plutôt que vivre. Dans un sommeil aussi doux que la mort, j'étalerai mes baisers sans remords sur ton beau corps poli comme le cuivre. Pour engloutir mes sanglots apaisés, rien ne me vaut l'abîme de ta couche. L'oubli puissant habite sur ta bouche et le léthé coule dans tes baisers. À mon destin, désormais mon délice, j'obéirai comme un prédestiné, martyr docile, innocent condamné, dont la ferveur attise le supplice. Je sucerai, pour noyer ma rancœur, le népenthès et la bonne ciguë, au bout charmant de cette gorge aiguë qui n'a jamais emprisonné de cœur.
Alors le poème Léthé, quel est-il ? En fait, le Léthé, dans la mythologie grecque, est un fleuve, celui des enfers, et les âmes y vont pour oublier leurs fautes, leur passé, et en buvant de son eau, cela provoque une amnésie. Charles Baudelaire, dans ce poème, choque. Pour quelle raison ? En fait, par l'inspiration maléfique et par les thèmes comme l'enfer, la sensualité, l'amante, la mort. Il insiste sur le fait que l'oubli est nécessaire et invite à une nouvelle naissance. Alors Charles Baudelaire, eh bien, il est né à Paris en 1821. Il a vécu dans le Quartier Latin où sa vie est bohème et il écrit ses premiers textes en 1841 après ses voyages en Afrique et en Orient. Les sensations, les impressions, les émotions seront le point de départ de son processus d'écriture. En 1847, il devient traducteur des textes d'Edgar Allan Poe. Sa vie se caractérise par la liberté et le voyage est un élément formateur. Et ensuite, sa rencontre avec Jeanne Duval, avec qui il aura une liaison jusqu'à sa mort. Alors, pourquoi les fleurs du mal ? Quel est le sens de ce titre ? En quoi l'apparition des fleurs du mal fait donc scandale ? Et pourquoi le livre est attaqué pour immoralité ? Eh bien, en fait, les fleurs symbolisent la beauté, la fragilité, la grâce. Le mot « mal » contrecarre cette image de beauté. Le poète choisit de rapprocher ces deux images, fleurs et mal, en créant une antinomie, un oxymore. Les fleurs, le mal, au contraire, expriment des éléments sombres et décriés. Satan, la tristesse, la mort, à partir du mal, des poèmes peuvent s'écrire et donc, du mal peut s'extraire et naître des fleurs. Les titres de ce recueil annoncent les thèmes de tous les poèmes, à savoir le voyage, la fuite du temps, l'amour, le vin, l'alcool, l'alchimie, Paris, le dandysme, la maladie, l'obsession de la mort, la souffrance, la prostitution, l'art, le diable, la femme, l'enfance, la mélancolie, la révolte, le souvenir et la quête d'un monde idéal. Oh là là, la justice et le clergé, la bourgeoisie puritaine se sont évidemment révoltés contre ces textes, contre ces sujets et en ont exigé la censure en raison de ces différents thèmes notamment. Écoutons Lesbos.
Mère des jeux latins et des voluptés grecques, Lesbos, où les baisers, languissants ou joyeux, chauds comme les soleils, frais comme les pastèques, font l'ornement des nuits et des jours glorieux, mère des jeux latins et des voluptés grecques. Lesbos, où les baisers sont comme les cascades, qui se jettent sans peur dans les gouffres sans fond, et courent sanglotantes et gloussant par saccades, orageuses et secrets, fourmillants et profonds, Lesbos, où les baisers sont comme les cascades. Lesbos, où les frinées l'une l'autre s'attirent, où jamais un soupir ne resta sans écho, à l'égal de Paphos, les étoiles t'admirent, et Vénus, à bon droit, peut jalouser sa faux. Lesbos, où les frinées l'une l'autre s'attirent. Lesbos, terre des nuits chaudes et langoureuses, qui font qu'à leur miroir, stérile volupté, les filles aux yeux creux de leurs corps amoureuses caressent les fruits mûrs de leur nubilité. Lesbos, terre des nuits chaudes et langoureuses, laisse du vieux Platon se froncer l'œil austère, tu tires ton pardon de l'excès des baisers. Reine du doux empire, aimable et noble terre, et des raffinements toujours inépuisés, laisse du vieux Platon se froncer l'œil austère. Tu tires ton pardon de l'éternel martyr, infligé sans relâche aux cœurs ambitieux, qu'attire loin de nous le radieux sourire, entrevu vaguement au bord des autres cieux. Tu tires ton pardon de l'éternel martyr. Qui des dieux osera, Lesbos, être ton juge, et condamner ton front pâli dans les travaux, si les balances d'or n'ont pesé le déluge, de larmes qu'à la mer ont versé tes ruisseaux? Qui des dieux osera, Lesbos, être ton juge? Que nous veulent les lois du juste et de l'injuste? Vierges au cœur sublime, honneur de l'archipel, votre religion, comme une autre, est auguste, et l'amour se rira de l'enfer et du ciel. Que nous veulent les lois du juste et de l'injuste? Car Lesbos entre tous m'a choisi sur la terre pour chanter le secret de ces vierges en fleurs. Et je fus, dès l'enfance, admis au noir mystère, des rires effrénés mêlés aux sombres pleurs, car Lesbos entre tous m'a choisi sur la terre. Et depuis lors je veille au sommet de l'Eucate comme une sentinelle à l'œil perçant et sûr, qui guette nuit et jour, brique, tartane ou frégate, dont les formes loin frissonnent dans l'azur. Et depuis lors, je veille au sommet de l'Eucate. Pour savoir si la mer est indulgente et bonne, et parmi les sanglots dont le roc retentit, un soir ramènera vers Lesbos qui pardonne, le cadavre adoré de Sappho qui partit. Pour savoir si la mer est indulgente et bonne. De la mâle Sappho, l'amante et le poète, plus belle que Vénus par ses mornes pâleurs, l'œil d'azur est vaincu par l'œil noir que t'achète, le cercle ténébreux tracé par les douleurs, de la mâle Sappho, l'amante et le poète. Plus belle que Vénus se dressant sur le monde et versant les trésors de sa sérénité et le rayonnement de sa jeunesse blonde sur le vieil océan de sa fille enchantée. Plus belle que Vénus se dressant sur le monde. De Sappho qui mourut le jour de son blasphème, quand, insultant le rite et le culte inventé, elle fit son beau corps la pâture suprême d'un brutal dont l'orgueil punit l'impiété, de celle qui mourut le jour de son blasphème. Et c'est depuis ce temps que Lesbos se lamente, et, malgré les honneurs que lui rend l'univers, s'enivre chaque nuit du cri de la tourmente que poussent vers les cieux ses rivages déserts. Et c'est depuis ce temps que Lesbos se lamente.
Alors, la publication des Fleurs du Mal comprend quatre éditions différentes de 1857 à 1868, année suivant la mort de l'auteur. Première édition en 1857, et enfin procès et censure pour outrage à la morale publique et offense à la morale religieuse. Ça entraîne la censure de 6 pièces jugées immorales, les bijoux, le laité, à celle qui est trop gaie, Lesbos, que nous venons d'écouter, femme damnée et la métamorphose du vampire. Et enfin, il y a le 31 mai 1949, un arrêt qui annule la condamnation de 1857. Alors, ce recueil de poèmes reprend l'ensemble de ses écrits, en vers de 1840 jusqu'à sa mort en août 1857, et il faut savoir que c'est des poèmes en vers uniquement. La forme de ces poèmes est classique, mais le fond est moderne, novateur, et notamment par les thèmes abordés. Il casse, il perturbe le style convenu, rigide et classique, utilisé jusqu'à là. Il modernise la structure du vers avec l'utilisation de rejets, de contre-rejets et d'enjambements. Charles Baudelaire est un moderne, un réformateur. Écoutons maintenant les femmes damnées.
À la pâle clarté des lampes languissantes, sur de profonds coussins tout imprégnés d'odeur, Hippolyte rêvait aux caresses puissantes qui levaient le rideau de sa jeune candeur. Elle cherchait, d'un œil troublé par la tempête, de sa naïveté le ciel déjà lointain, ainsi qu'un voyageur qui retourne la tête vers les horizons bleus dépassés le matin. De ses yeux amortis, les paresseuses larmes, l'air brisé, la stupeur, la morne volupté, ses bras vaincus, jetés comme de vaines armes. Tout servait, tout paraît sa fragile beauté. Étendue à ses pieds, calme et pleine de joie, Delphine la couvait avec des yeux ardents, comme un animal fort qui surveille une proie, après l'avoir d'abord marqué avec les dents. Beauté forte à genoux devant la beauté frêle, superbe, elle humait voluptueusement, le vin de son triomphe et s'allongeait vers elle, comme pour recueillir un doux remerciement. Elle cherchait dans l'œil de sa pâle victime le cantique muet que chante le plaisir, et cette gratitude infinie et sublime qui sort de la paupière ainsi qu'à l'en soupir. Hippolyte, cher cœur, que dis-tu de ces choses ? Comprends-tu maintenant qu'il ne faut pas offrir l'holocauste sacré de tes premières roses au souffle violent qui pourrait les flétrir ? Mes baisers sont légers comme ces éphémères, qui caressent le soir les grands lacs transparents, et ceux de ton amant creuseront leurs ornières, comme des chariots ou des socs déchirants. Ils passeront sur toi comme un lourd attelage, de chevaux et de bœufs aux sabots sans pitié. Hippolyte, ô ma sœur, tourne donc ton visage, toi, mon âme et mon cœur, mon tout et ma moitié. Tourne vers moi tes yeux pleins d'azurs et d'étoiles, pour un de ces regards charmants, baume divin, des plaisirs plus obscurs, je lèverai les voiles, et je t'endormirai dans un rêve sans fin. Mais Hippolyte alors, levant sa jeune tête, « Je ne suis point ingrate et ne me repens pas, ma Delphine, je souffre et je suis inquiète, comme après un nocturne et terrible repas. Je sens fondre sur moi de lourdes épouvantes et de noirs bataillons de fantômes épars qui veulent me conduire en des routes mouvantes qu'un horizon sanglant ferme de toutes parts. Avons-nous donc commis une action étrange ? Explique si tu peux mon trouble et mon effroi. Je frissonne de peur quand tu me dis mon ange, et cependant je sens ma bouche aller vers toi. Ne me regarde pas ainsi, toi ma pensée, toi que j'aimais à jamais ma sœur d'élection, quand même tu serais une embûche dressée et le commencement de ma perdition. » Delphine se pensa crinière tragique, et comme trépignant sur les trépieds de fer, l'œil fatal répondit d'une voix despotique, « Qui donc devant l'amour ose parler d'enfer ? Maudit soit à jamais le rêveur inutile, qui voulut le premier dans sa stupidité, s'éprenant d'un problème insoluble et stérile, aux choses de l'amour mêlées l'honnêteté. Celui qui veut unir dans un accord mystique, l'ombre avec la chaleur, la nuit avec le jour, ne chauffera jamais son cœur paralytique à ce rouge soleil que l'on nomme l'amour. Va, si tu veux, chercher un fiancé stupide. Cours offrir un cœur vierge à ces cruels baisers. Et pleine de remords et d'horreur et livide, tu me rapporteras tes seins stigmatisés. On ne peut ici-bas contenter qu'un seul maître. » Mais l'enfant, épanchant une immense douleur, cria soudain. Je sens s'élargir dans mon être un abîme béant, cet abîme est mon cœur. Brûlant comme un volcan, profond comme le vide, rien ne rassaisira ce monstre gémissant. Il ne rafraîchira la soif de l'Euménide, qui, la torche à la main, le brûle jusqu'au sang. Que nos rideaux fermés nous séparent du monde, et que la lassitude amène le repos. Je veux m'anéantir dans ta gorge profonde, et trouver sur ton sein la fraîcheur des tombeaux. Descendez, descendez, lamentable victime, descendez le chemin de l'enfer éternel, plongez au plus profond du gouffre où tous les crimes, flagellée par un vent qui ne vient pas du ciel, bouillonne pêle-mêle avec un bruit d'orage, ombre folle, courez au but de vos désirs, jamais vous ne pourrez assouvir votre rage, et votre châtiment naîtra de vos plaisirs. Jamais un rayon frais n'éclaira vos cavernes, par les fentes des murs, des miasmes fiévreux filtrent en s'enflammant ainsi que des lanternes, et pénètrent vos corps de leurs parfums affreux. L'âpre stérilité de votre jouissance altère votre soif et roidit votre peau, et le vent furibond de la concupiscence fait claquer votre chair ainsi qu'un vieux drapeau. Loin des peuples vivants, errants et condamnés, à travers les déserts, courez comme les loups, faites votre destin, âme désordonnée, et fuyez l'infini que vous portez en vous.
Alors les deux poèmes que nous venons d'entendre, Lesbos et les femmes damnées, eh bien, font partie de ceux qui ont été justement condamnés parce que scandaleux à l'époque, sous prétexte que le sujet principal était le saphisme, et parce que effectivement à cette époque, il y avait énormément de préjugés de la part de la société du XIXe siècle. Dans ses poèmes, nous voyons audace, sensualité, érotisme, désir, fascination et répulsion inspirées par la femme. Il faut quand même savoir qu'à cette époque, Madame Bovary de Flaubert a connu aussi le scandale. Et heureusement qu'aujourd'hui, ces deux œuvres principales restent dans l'histoire de la littérature française. Parce que si effectivement nous avons étudié ça souvent de manière scolaire, n'oublions pas que tout de même, c'est la créativité et l'art qui sont des moteurs essentiels et qui en font leur pleine beauté essentielle. Je crois que la boucle est bouclée. Je vous laisse avec Jane Birkin et Serge Gainsbourg. Je t'aime, moi non plus. Belle soirée à vous, je vous embrasse. À bientôt.
Je t'aime, moi non plus, par Serge Gainsbourg et Jane Birkin. Vous êtes sur J'irai cracher sur vos ondes.
Moi, les hommes, je les déteste. Un titre qui aura déjà fait coulé pas mal d'encre pendant la rentrée littéraire de l'automne 2020, et oui déjà. Bon, vous avez peut-être suivi de près ou de loin cette affaire, mais vu ce qui s'est passé alors qu'on vient à peine d'entrer en 2020 en termes d'affaires médiatiques à suivre ou à éviter selon le niveau d'anxiété de chacun chacune, je pense qu'un petit récap s'impose. Donc l'histoire commençait en printemps 2020, Pauline Armange nourrit son blog, L'Indicible Été, de ses articles, et l'un d'eux va retenir l'attention de deux éditeurs auteuristes, Martin Page et Colline Pierret, qui ont uni leurs forces pour monter Monstrographe, hein, qu'ils présentent eux-mêmes comme un laboratoire d'édition associatif. Dans cet article de Pauline Armange publié le 12 juillet 2019, elle nous parlait d'épuisement. L'épuisement d'une femme qui vient de vivre un moment redouté par beaucoup, celui où on tombe enceinte malgré les précautions et les dispositifs contraceptifs. L'épuisement d'une femme qu'on ne peut plus de subir, la trahison de son corps cette fois-ci, mais également l'arnaque générale de la charge mentale. L'épuisement d'une femme qui se trouve être féministe et qui se trouve une nouvelle fois impuissante quand elle subit cette colère qui, je la cite, est celle d'être une porte-parole permanente de ma cause, mais de parler dans un aquarium. D'écrire des articles féministes que seules les femmes liront, de lire ses livres féministes et d'en parler qu'avec d'autres femmes. Elle parle déjà alors de la fainéantisme, de l'égoïsme, de la vanité masculine, qui, trop heureux, ces pauvres hommes, de bénéficier des efforts de vulgarisation et de pédagogie des femmes qui investissent leur temps et leur argent pour l'acquisition de ces savoirs. Ce cri de découragement trouve un écho chez Martin Page et Colline Pierret qui proposeront à Pauline Armange de développer ses idées en vue de rédiger un texte sur la misandrie. Et quelques mois plus tard, c'est la sortie du Covid. Ça retarde un peu la publication du livre, mais ça n'interdit pas les précommandes, ainsi que la présentation du livre sur le fameux blog. L'autrice présente son livre avant tout comme un manifeste misandre qui veut rendre audible la détestation des hommes, mais également qui se veut une invitation à la sororité. C'est un tout petit livre, un peu moins de 100 pages, qui devrait faire à peu près autant d'exemplaires en fait, vu la petite maison d'édition qui l'accueille. Mais c'est apparemment déjà trop pour Ralph Zurmeli. Accrochez-vous, ça va être long. Monsieur est chargé de mission, accès au droit de bureau de... Pardon. Chargé de mission, accès au droit au bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la vie personnelle et sociale, ce à la Direction Générale de la Cohésion Sociale, de GSS pour les intimes, du ministère délégué à l'égalité femmes-hommes, à la diversité et à l'égalité des chances. C'est avec cette signature pleine d'humilité et de modestie qu'il signe son mail à l'intention des éditeuristes de Moi les hommes je les déteste, ouvrage au titre manifestement insoutenable, puisque ce mail de Ralph Zurmeli exige le retrait immédiat de l'essai du catalogue. La menace est loin d'être légère, parce que le fonctionnaire s'appuie sur l'article 24 de la loi 29 juillet 1880, qui punit d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende toute provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre. Avait-il lu le livre ? Non. Un fonctionnaire avec un titre aussi long n'a pas le temps pour lire un livre d'un peu plus de 90 pages, surtout pas si le PDF est accessible pour juste 2 euros sur le site de la maison d'édition. Avait-il le droit d'adresser ce mail et ses menaces ? Non plus. Marie Barbier, dans son article pour Mediapart du 31 août 2020 qui fit la lumière sur cette affaire, nous rapporte les propos de l'avocate Agnès Tricouard, déléguée de l'Observatoire pour la liberté de création. Elle nous dit « Les seules procédures administratives destinées à faire interdire les œuvres qui existent aujourd'hui sont celles qui protègent la jeunesse et datent de 1949. Il existe alors toute une procédure à suivre, et hors de celle-ci, aucun fonctionnaire n'est habilité à exiger un retrait d'un livre d'un éditeur. Pour rappel, l'entrave à la liberté d'expression est, elle, un délit pénal, Monsieur Zurmeli, se prévaut donc d'une notoriété avec sa signature, en affirmant « Je suis le ministère qui va saisir la justice », menace infondée pour appuyer une demande de censure illégale. Enfin, Monsieur Zurmeli n'a pas lu le livre. Non seulement il n'a aucune autorité, mais sa démarche est aveugle et absurde. L'effet Barbara Streisand ne manque pas de s'enclencher. Le titre si provocateur fait les titres, et donc fait vendre. Tellement vendre que les exemplaires originaux publiés chez Monstrographe sont épuisés et que l'ouvrage est désormais édité chez Le Seuil, qui dispose d'infrastructures bien plus calibrées pour la demande actuelle. Tout ça parce qu'un mec ne pouvait pas supporter que l'on puisse intituler un livre « Moi les hommes, je les déteste ». On va s'attarder un peu si vous le voulez bien sur ce titre. Apparemment, c'est la combinaison du COD avec un tel verbe qui a pu choquer dans les bureaux et les chaumières. Détester. D'après le Littré, ce mot renvoie à plusieurs définitions. Condamné par parole de réprobation, en avoir horreur, ne plus endurer, supporter. Issu du latin « détestari » qui a pour sens premier « repousser avec serment une assertion ou une accusation ». C'est un mot limpide, qui semble avoir été ici préféré contre des formes bien plus piquantes, comme « arborer » qui renvoie plus frontalement à l'horreur que peuvent aspirer les hommes, ou encore « abominer » renvoyant à l'abomination de leurs actes.
Pourquoi pas non plus exécrer ? Moi, je vois tout de suite le lien avec les excréments, ça me semble parfaitement opportun. Quelle bonne féministe n'a pas gagné son badge par l'éructation du rituel Ménartrash ? Mais non, ici, il est question que de détester. Même pas ça. Moi, les hommes, je les déteste. Ce n'est même pas un ordre ou une invitation, ce n'est qu'un indicatif accompagné du redoublement de la première personne du singulier. Ça semble parfaitement contextualiser la subjectivité de l'énoncé. Et c'est ça, et c'est justement là le projet de l'autrice, oser dire et oser revendiquer le droit à une misandrie personnelle. Laquelle ? D'où vient-elle ? Eh bien ça, je pourrais vous le résumer, mais ça serait prendre le risque de vous priver de quelques-uns. Oula. Mais ça serait prendre le risque de priver quelques-uns du plaisir d'acquérir et de lire ce court et accessible ouvrage. Alors je vous propose plutôt un pot pourri de citations sur une musique qui envoie du pâté, parce que ça fait plaisir.
On confond souvent colère et violence, pourtant ces deux mots ne vont pas toujours de pair. La colère, d'être traité en inférieur, n'est pas comparable avec la violence des hommes qui nous humilient, nous violent et nous tuent. Ni même avec la violence des hommes qui nous ignorent, nous tournent le dos et nous rient au nez. On a tout à gagner à s'éloigner du rôle limité de femme douce et pacifique, presque passive, et à exiger que les hommes deviennent meilleurs. Pour ça, je n'ai plus envie de me précipiter sur internet comme en face à face pour rassurer tout un chacun qu'en fait, non, je ne suis pas vraiment misandre, je plaisante, parce que j'ai de l'humour et que je n'oserais jamais suggérer qu'on serait bien mieux sans l'influence ni même la présence des hommes dans nos vies. En réalité, je ne plaisante pas du tout quand je dis que je suis misandre. Alors pourquoi prétendre le contraire ? Je n'ai plus envie de gaspiller mon temps et mon énergie à faire semblant d'être douce et sympa. Je ne suis peut-être pas tant que ça, et au fond, ce n'est pas très grave.
Sexiste, moi, à la maison, j'ai une femme, deux filles, deux chattes et 20 poules. Je n'ai que des femelles à la maison.
Ce n'est pas pour cracher dans la soupe, mais il faut être honnête. Non, mon amoureux n'est pas parfait. Il ne me viole pas, il ne me frappe pas, il fait la vaisselle, passe l'aspirateur et me traite avec le respect que je mérite. C'est ça être parfait ? Ou bien est-ce la moindre des choses ? Les standards sont-ils tellement bas que les hommes peuvent s'en tirer à si bon compte ? Entendons-nous bien. Je ne suis pas parfaite non plus, et personne ne l'est. Il me semble pourtant que les efforts entrepris par les femmes pour se rendre plus aimables aux yeux de leurs conjoints sont rarement réciproques. On va chez le psy, on lit des livres qui nous apprennent comment nous organiser, comment être zen, comment jouir,
on fait des walking,
on partage des dadas,
on fait du sport et des
dialogues, on fait sport et des régimes,
on fait des walking,
on
fait du sport et des régimes,
on fait du coaching, on
fait du job,
4. Les femmes sont dans un processus de mise à jour permanent. Avec mon tapis de yoga, mon app de méditation, mes deux thérapies, mes bouquins de communication non violente et mon contrôle relatif de mes émotions parfois débordantes, j'ai l'impression d'être un cliché. Je me revois comment expliquer les principes de la communication non-violente à mon conjoint en espérant que ça nous permettrait de mieux exprimer nos désaccords sans sombrer illico dans des disputes orageuses. Il aurait pu lui aussi lire le livre que j'avais acheté, voire folie. Il aurait pu prendre le devant en constatant que nos conflits ne se résolvaient pas de manière satisfaisante et proposer lui-même une solution. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. J'ai pris la charge émotionnelle de la relation sur mes épaules. C'est ce que les femmes sont obligées de faire, vu qu'elles sont les seules dans une relation hétérosexuelle à avoir appris à le faire. Les mecs pourraient s'y mettre aussi, mais c'est comme apprendre une langue étrangère. Beaucoup moins facile une fois adulte, et si en face quelqu'une fait tous les efforts pour parler la langue de l'autre, pourquoi s'emmerder ?
Je constate que derrière chaque homme un peu conscient de son privilège masculin, il y a plusieurs femmes qui ont beaucoup travaillé pour l'aider à ouvrir les yeux. Et ça, ils ne sont pas nombreux à le reconnaître. Et je constate qu'il y a encore trop d'hommes dont les yeux sont désespérément, obstinément clos.
Bah c'est cool.
Ah, merci. C'était trop bien.
Et le groupe, c'est cool que tu as mis
The Great Cold, qui a fait l'album du même nom, The Great Cold.
Ah bah je vais aller voir, super. Ça donne la pêche.
Ça tabasse bien comme il faut.
Ouais.
Bah j'espère que c'était, enfin apparemment oui, mais j'espère que c'était une bonne mise en bouche.
Ouais.
Et du coup, pour dire tout simplement et rapidement ce que j'ai pensé de ce livre, bah c'est sympa en fait. Et c'est bien ça le truc, en fait, c'est que c'est juste sympa. Il y a des constats et des rappels qui font du bien, des nuances qui rassurent, pour en tout cas ceux que le titre aura choqué, des réflexions sur le vécu de la relation hétérosexuelle qui m'ont fait du bien et qui vont me servir. Mais c'est peut-être la faute du feu des rampes médiatiques, mais j'en attendais plus, quoi.
Ouais, d'accord.
Et j'attendais qu'on me propose quelque chose qui rende mieux compte de l'implication des luttes et des rapports de force. Par là, je veux dire que quand je lis dans le livre que le patriarcat empêche une femme de menacer l'emploi d'un homme, bah, j'aimerais que dès la phrase suivante, on rappelle que c'est ce qui arrive dans la société raciste, validiste, transphobe. Donc voilà, le livre ne fait pas plus de 100 pages, donc c'est normal que Pauline Erlange ne nous livre que ce qu'elle a promis, un essai sur la misandrie telle qu'elle est pensée à son endroit, celui d'une femme mariée à un homme dans la société hétéro-patriarcale. On pourrait rajouter également que c'est celui d'une femme blanche, d'une femme cisgenre, vu que l'impliciste invite souvent à l'impensé. Néanmoins, il faut garder à l'esprit que l'exposition médiatique du livre a complètement explosé. Son autrice a de nombreuses critiques, commentaires, insultes, enfin, a du harcèlement, donc je peux pas juste la critiquer en faisant fi de ce qu'elle se prend dans la gueule. Donc, pour reprendre ses mots, on lui reproche tantôt d'avoir écrit un brûlot qui appelle à la haine, ou encore d'avoir écrit un texte mou au vocabulaire utopique. Donc, l'un dans l'autre, ça me souhaite pas souhaitable de tomber dans l'un de ces extrêmes. Mais il faut garder en esprit que c'est juste un livre modeste et agréable comme porte d'entrée, en fait. Et je lui souhaite seulement de ne pas devenir la couverture que l'on affiche dans les vitrines sans la lire, juste pour faire bien. Pour celles et ceux qui, comme moi, veulent aller plus loin, et par plus loin, je veux dire plus loin que les pistes un peu doucerettes que le livre propose lui-même d'explorer à l'issue de sa lecture, parce que oui, il faut que je vous en parle de ça, le livre nous propose par exemple de visionner Mad Max Fury Road, le film où Max ferme sa gueule et où Furiosa crève l'écran. Et bon, ouais, c'est un film sympa, c'est vrai, mais j'ai pas entendu beaucoup de mecs s'extasier du traitement des personnages à la lumière d'une subversion et remise en question des rôles de genre. Donc bon, je vais vous partager plutôt, moi, les pistes des pistes en fait à explorer que j'ai découvertes en écrivant cette chronique, justement. Donc déjà, à la force de le voir régulièrement cité et comparé au livre de Paul Armanche, bah, j'ai plus envie que jamais d'affronter le pavé un peu plus conséquent d'Alice Coffin, le génie lesbien qui a fait couler beaucoup d'encre, lui, et de manière assez pernicieuse dans les espaces médiatiques mainstream. J'ai également vu passer quelques mots sur l'ouvrage de l'historienne Colette Pipon, « Et on tuera tous les affreux, le féminisme au risque de la misandrie », un essai historique qui porte sur les années 1970 à 1980. Et puis surtout, j'ai eu envie d'aller à la rencontre du rare fait misandre qui aura fait couler le sang d'un homme, l'histoire de Valérie Solanas et de son pamphlet « Scum Manifesto », histoire de voir ce que c'est un écrit qui n'a pas peur d'étaler sa misandrie au-delà de son titre. Voilà. Et donc, à l'issue de cette chronique, il y aura un instant musical, à savoir Let's Generalize About Men, un titre qui vient de la série trop génialissime de Rachel Bloom intitulée Crazy Ex-Girlfriend. Pour reprendre ces mots, c'est une chanson à la fois féministe et anti-féministe pour dire que les hommes, c'est tous des gros nuls qui rotent et qui pètent. Voilà.
Coming up is a song that manages to be both feminist and anti-feminist at the same time.
Here's your jacket, bitch! Right now we're angry and sure. It's our right to get righteously mad. Every member of the armed forces.
To have said think about themselves, as opposed to women who always listen and never think about themselves.
Ooh, I hear you, girl. Let's generalize about men. Let's generalize about men. Let's get super lit and not epic. This is some kind of primal ritual we need now and then. Maybe our spirits will rise if we generalize about men. All men are stupid and childish, even the ones who are smart and mature. All every man does every day is watch porn.
What about gay men?
Oh no, they're fine.
Gay men are all really great. Every single one. They're never mean, just sassy. They're all completely adorable and fun. So let's focus for now on straight men. Let's just generalize about them.
They're all monsters.
They're murderers.
They're rapists.
Totally.
Wait, I have sons.
Your sons are gonna be rapists.
Vous venez d'écouter Let's Generalize About Men avec J'irai cracher sur vos ondes.
Et après cet interlude musical, on se retrouve pour discuter de l'écart qu'il peut y avoir entre Paul, Armange et Charles Baudelaire. Parce que l'un des sujets que je n'ai pas abordé dans cette chronique, mais dont j'aurais voulu discuter avec vous, c'est un petit peu du traitement différencié que ces auteuristes ont eu au vu de leurs différents sujets. Et enfin, je trouvais ça marrant d'ailleurs, Sandrine, que tu choisisses de parler de Charles Baudelaire, parce que moi, en me renseignant sur Pauline Armange, je suis tombée sur pas mal de choses qui parlent un petit peu de la tradition de la misandrie littéraire qui est pas mal marquée en France. Et Baudelaire, par exemple, est un nom assez connu pour avoir été pour le moins dégueulasse à l'égard de George Sand, il n'y a pas d'autre mot.
Oui, la misogynie de Charles Baudelaire n'est plus à prouver. En cela... Ces textes m'intéressent non pas parce qu'il est misogyne, mais c'est psychologiquement ce personnage qui m'intéresse, cet auteur. Et je pourrais peut-être vous éclairer sur les raisons de sa misogynie. Non pas que je la valide, pas du tout, mais j'essaie de la comprendre. Voilà, ça m'a pas empêché d'aimer ces textes, parce que, à mon sens...
Ah oui, je disais pas ça non plus pour te reprocher d'avoir osé parler de Charles Baudelaire, surtout pas, mais c'est juste que... Aujourd'hui, on ne se prive pas de qualifier Charles Baudelaire de génie, etc. On l'a dans les programmes au collège, au lycée, etc.
Absolument.
Sa misogynie n'est pas trop un sujet dans ces milieux-là, certainement pas. Mais à son époque, Charles Baudelaire écrivait longuement sur à quel point George Sand était, je cite, « bête, lourde et bavarde ». En gros, comment il essayait de démontrer par A plus B qu'elle n'aurait pas dû écrire. Et aujourd'hui, si une femme, dans son titre uniquement de son livre, écrit « Moi, les hommes, je les déteste », ça ne passe pas dans le même pays où Baudelaire aujourd'hui fait l'unanimité.
Oui, il y a un traitement.
Je trouvais ça assez intéressant à souligner.
Un traitement complètement différent. C'est vrai, c'est très juste.
Mais moi ça me fait penser à la fois parce qu'il y a quand même une grosse distance historique avec l'œuvre de Baudelaire maintenant qui fait qu'on est. Enfin, c'est beaucoup moins scandalisant en fait aujourd'hui par rapport à l'époque où il écrivait ce qu'il a écrit. Et de la même manière, quand on est une femme et qu'on lit Pauline Armange, on n'est absolument pas scandalisé de la même manière qu'un homme blanc de 40 ans hétérosexuel peut l'être. Et ça m'a amené à faire un parallèle qui est un peu nul, mais qui me semble assez pertinent, c'est qu'au final, le scandale, il est dans l'œil de celui qui est scandalisé, un peu à la manière dont la beauté est dans l'œil du spectateur et... En fait, le scandale de l'un, c'est jamais vraiment complètement le scandale de l'autre. Et les normes qui vont faire qu'on est scandalisé, elles sont valables uniquement pour nous qui décidons que quelque chose est scandaleux. Mais en fait, c'est absolument pas les mêmes normes qui vont régir le scandale de quelqu'un d'autre.
Oui, puis au-delà de la subjectivité, ça va dépendre également de quelles sont les sphères scandalisées. Donc là, en l'occurrence, si on regarde un petit peu... qui va générer les critiques médiatiques, etc. Alors, c'est quand même un milieu qui est assez homogène, ça va prescrire un certain nombre de scandales aussi.
Mais je trouve ça presque plus intéressant d'analyser finalement ceux qui sont scandalisés que d'analyser la source du scandale lui-même. C'est un peu ce que tu dis, c'est qu'au final, le livre de Pauline Armange, il n'est pas si scandaleux que ça, mais par contre, il met bien en évidence la facilité avec laquelle c'est un sujet qui est très touchy, quoi. Il faut faire attention.
Donc. Oui, en fait, ce que tu dis, Marion, enfin, c'est ça, c'est que c'est scandaleux parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont scandalisés par rapport à ça, en fait. C'est pas le livre en lui-même qui l'est, quoi.
Mais non.
C'est l'action par rapport au livre.
Ouais, ouais. Moi, ça m'a vraiment fait... Je ne l'ai pas acheté, au final, ce livre. Je l'ai feuilleté seulement en librairie. Mais en le feuilletant, j'ai bien vu qu'il n'y avait rien... Il n'y avait pas de quoi casser trois pattes à un canard. J'ai lu un article d'elle, parce qu'elle a publié, du coup, un article pour revenir sur sa position, on va dire, sa position théorique. Elle a publié un article dans la revue du Crieur. Et on voit bien qu'en fait, il n'y a rien de très polémique, en fait, dans sa manière d'aborder les choses. Et par contre, La vague de haine et d'indignation que ça a suscité, bah, en parallèle avec le livre d'Alice Coffin, hein, mais ça, c'était vraiment impressionnant. Vraiment.
Ouais. Mmh. Absolument.
Bah, d'ailleurs, il y a une phrase elle-même qu'elle avait écrite. « Nous sommes mis hommes dans notre coin. Quand nous détestons les hommes, au mieux, nous continuons à les tolérer parce qu'ils sont partout et qu'il faut bien faire avec. Mmh. Incroyable, mais vrai, on peut détester quelqu'un sans avoir une envie irrépressible de le tuer. » Que Pauline Armange puisse écrire ça et recevoir dans... Enfin, elle doit recevoir quotidiennement, je pense, des menaces de mort pour avoir osé écrire un titre d'un livre où elle détaille cette pensée-là. Voilà, quoi. Enfin, c'est assez stupéfiant. Ouais.
Mais en fait, il suffit de faire un test autour de soi dans une population diverse et de diversité. Et en fait, rien que de balancer le titre, eh bien, en fait, les réactions sont très vives. Même les gens n'ont pas lu le livre. C'est ça qui est curieux.
Ouais.
C'est que le titre scandalise ou pas, mais en tout cas amène à des remarques, des réactions. Et en fait, ce qui compte quand même avant tout dans un livre, c'est bien le contenu. Et moi, pour revenir à Charles Baudelaire, ce que j'aimerais juste préciser, c'est qu'en fait, j'ai décidé de faire cette chronique parce que la thématique était le scandale. Et ce qui m'a vraiment intéressée, c'est de montrer des textes qui ont été tronqués, qui ont été retirés, les 6 textes, Lesbos, Le Lété, Les Femmes damnées, parce que justement, c'était la société du 19e, très conservatrice, très stricte, la bourgeoisie, le clergé... Voilà, c'était eux qui avaient cette réaction d'être scandalisés, et je me posais même la question, en fait, avaient-ils vraiment lu les poèmes ?
Mm-hmm.
Est-ce que c'était juste aussi les thèmes, les abordés ? Donc, moi, je les ai cités dans la chronique tout à l'heure, mais est-ce que, en fait, au préalable, il y a eu aussi vraiment une lecture, et je dirais même une relecture ? Et c'est en cela que je trouve que c'est intéressant de se poser la question, est-ce que c'est le titre ? Est-ce que c'est la vague ? Qu'est-ce qui crée vraiment le scandale, en fait, finalement ? Qu'est-ce qui crée un scandale aujourd'hui et encore au 19e ? Qu'est-ce qui est scandaleux, effectivement ?
Mais tu vois, on mentionnait Alice Coffin, elle ne sait même pas son titre, c'est une phrase très précise qui a été citée, tronquée et détournée, alors qu'elle revient sur cette phrase, genre 2 lignes plus loin pour la contextualiser, etc. Enfin, la phrase, en l'occurrence, c'était qu'elle elle purgeait un petit peu ses consommations culturelles des œuvres masculines. Mais elle termine le paragraphe en disant « Plus tard, ils pourront revenir. Il est dans les hommes. » Mais ça... En fait, le scandale... comment dire ? En tout cas, ceux qui produisent le scandale et ceux qui se scandalisent ne sont pas gênés pour occulter et se cristalliser sur des éléments très précis, oui. En fait. Que ce soit des images ou des personnages ou des situations pour Baudelaire, que ce soit un titre pour Pauline Armange. Mm-hmm.
Mais je pense que ce que ça fait émerger, ouais, c'est des identités collectives, quoi. C'est ceux qui sont scandalisés qui s'érigent en groupe, en face de l'objet du scandale, mais en soi, l'objet du scandale, on s'en fout. Eux, ça leur permet juste d'exister en tant que groupe, quoi. Donc, le groupe, on va dire, de la morale constituée au 19e siècle, et puis le groupe de défense du patriarcat au 21e siècle, quoi.
Ouais.
Puis peut-être ce qu'il faut qu'on dise par rapport au 19e siècle, c'est qu'aujourd'hui, il y a aussi ce qu'on a... Enfin, la presse ne vit pas... Comment dire ? Charles Baudelaire, c'était un problème beaucoup plus moral. J'ai l'impression que là, aujourd'hui, on vit plus des affaires médiatiques parce que les médias, c'est devenu une affaire capitaliste comme une autre et que le scandale, ça génère des réactions émotives, nombreuses, donc ça fait vendre.
Ouais.
Et donc, en plus de réasseoir une morale, eh ben, on fait du chiffre et c'est pas mal de rentabiliser des vrais combats avec des vraies valeurs, quoi. Sans aucune ironie, bien entendu.
Bah c'est ça, parce que finalement, le livre d'Armange, en fait, il n'est pas si problématique que ça. C'est vraiment les réactions, parce que toutes les phrases qui m'ont été utilisées... Enfin, j'ai vu quelques citations sur Internet aussi en cherchant un peu. Et en fait, tout est hors contexte et dramatisé à l'extrême, en fait, par les... par la critique, quoi.
Oui, ouais, ils ont vraiment fait un travail... un travail de décontextualisation assez poussé, quoi, pour arriver à faire dire des choses... En fait, c'est comme si le bouquin s'appelait moi, les hommes, j'ai tous envie de les buter jusqu'au dernier.
C'est ça, alors qu'en fait, quand on lit quelques passages, c'est pas du tout ça le fond du propos. Quoi.
Ouais, c'est ça.
Quand bien même une personne dise moi, les hommes, je veux tous les tuer, ce qui est un petit peu ce qu'a pu faire Valérie Solanas dans Scum, Manifesto. Scum, ça renvoie vraiment au déchet, à la merde. Elle a des propos beaucoup plus virulents que Pauline Armange. Je rappelle qu'il y a pas si longtemps, on parlait de l'affaire Gabriel Matzneff, qui a littéralement écrit ses affaires de pédérastie et qui était célébré pour ça, en fait, parce que c'était vachement osé de le faire, de l'écrire, etc. Et ça n'a pas généré du tout les mêmes réactions, que ce soit au niveau littéraire, sociétal ou juridique, quoi. Ce n'est qu'une fois que Vanessa Springora s'est exprimée qu'il y a eu des poursuites judiciaires d'enclencher. Et enfin, c'est grave de se dire qu'un fonctionnaire peut se permettre de menacer une autrice vraiment méconnue d'une toute petite maison d'édition, d'un tout petit livre, et qu'à côté, il y ait des personnes bien placées qui puissent exercer, écrire des choses beaucoup plus puantes, en fait.
Mais justement, c'est ça, c'est que c'est des personnes bien placées.
Ouais, hélas.
Oui, parce que ceux qui s'autorisent à être scandalisés, c'est ceux qui ont le droit de le faire, en fait. Et le pouvoir de le faire. Si on n'a ni le pouvoir ni le droit d'être scandalisé, en fait, on est scandalisé dans son coin, mais ça n'a aucun impact.
C'est ça, bah c'est comme en rapport avec ce qu'il y a pu avoir avec Baudelaire et tout ça, par exemple. La misogynie, les femmes ne pouvaient pas tellement se scandaliser là-dessus parce qu'elles n'avaient pas d'impact. Donc les seules personnes qui auraient pu créer un scandale, c'était les hommes, sauf qu'ils n'étaient pas concernés. Donc,
Oui, puis ils sont feignants, vaniteux et égoïstes. Alors, on ne peut pas compter sur eux. Hein. Je crois que ça va être là le mot de la fin. Si vous ne voulez pas être vaniteux, égoïste, je ne sais plus le dernier mot, n'hésitez pas à faire votre part du travail, à vous scandaliser pour les bonnes choses que c'est nous qui avons décidé c'est quoi. Non, je déconne, pensez par vous-même.
Moi, je peux conseiller un livre à nos amis à couilles. Qui s'appelle qui a été écrit par un homme, donc peut-être que ça passe, la pilule passera mieux. Et ça s'appelle Refuser d'être un homme. C'est un bouquin qui date des années 80, je crois, qui a été écrit par un Américain et qui a été traduit il y a pas si longtemps en français. Donc pendant longtemps, ça n'a pas été traduit. Et voilà, Refuser d'être un homme, je pense que tout est dit dans le titre. Lisez ça.
Et si vraiment vous êtes très feignant, parce que voilà, a priori c'est le cas, le catalogue de Monstrographe ne manque pas de petits livres, tout petits et pas chers, qui permettent de remettre doucement et sûrement en question la chose. Le livre de Pauline Armange n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Et du coup, on va pouvoir conclure notre émission en vous invitant à partager sur vos réseaux, à vos parents, à vos hommes qu'il y a besoin d'éduquer s'il y a besoin, ou aux gens qui sont pas convaincus que la poésie baudelairienne est entendable, à vous de voir. On remercie nos lecteurs et lectrices de ce soir, à savoir Théo, Yuffie, Morgane et Nance. Et on vous souhaite une très bonne fin de semaine, et on vous dit à la semaine prochaine pour une émission qui vous invitera à rester en vie. Donc elle sera bien, soyez là s'il vous plaît.
Au revoir. À la semaine prochaine, à bientôt.
À la semaine prochaine.